Je me présente, je m'appelle René Parizet, je suis instituteur retraité, j'habite à Bossia, au pied du Revermont, et j'étais un ancien élève du lycée Lalande de 1943 à 1946, c'est-à-dire de la seconde à la terminale. Je voudrais en quelques mots peut-être vous situer cette époque-là. Après la guerre de 1914-1918, la situation complexe qui a existé a conduit l'Allemagne à avoir comme chef d'État, si vous voulez, Hitler, qui a accédé au pouvoir en 1933 et qui a remilitarisé tout de suite l'Allemagne. Comme fait important pour que vous compreniez bien, à la suite de cette remilitarisation, l'Allemagne a annexé l'Autriche, puis la Tchécoslovaquie, et en 1939, le 3 septembre, si mes souvenirs sont exacts, mais avant, enfin, au début septembre, la Pologne a été envahie par l'armée allemande et occupée définitivement en guerre plus de 2 semaines. C'est vous dire que les choses sont pratiquées extrêmement rapidement. À la suite de cette agression, en quelque sorte, la France et l'Angleterre sont entrées en guerre le 3 septembre 1939. Et ce conflit a conduit à une période qui, de septembre 1939 à mai 1940, a été pratiquement sans combat, sauf des petites escarmouches. C'était ce qu'on appelait la drôle de guerre. Effectivement, c'était une drôle de guerre. Si j'avais su, je vous aurais apporté plus exactement des journaux et des revues de cette époque-là. Rien ne se présentait, on joue au foot, enfin, il y avait très peu de choses qui se sont passées. Au début mai 1940, l'armée allemande attaque la Hollande, la Belgique, puis envahit la France par le massif des Ardennes. L'invasion a été extrêmement rapide, puisque au milieu de juin, le 20 juin, si mes souvenirs sont exacts, la France était complètement envahie et l'armistice se signait entre la France et l'Allemagne. Le président du Conseil de l'époque, qui s'appelait Paul Reynaud, avait donné sa démission. Il fut remplacé par le maréchal Pétain, qui était un chef de l'armée française, qui s'était illustré en 1914-1918. De Gaulle était parti en Angleterre. Et c'est à cette période-là, le 18 juin exactement, qu'il a lancé son appel à la résistance, à l'organisation de la résistance contre l'occupation allemande, avec les moyens qu'il avait. C'est pour vous situer, disons d'une manière simple, les choses comme elles sont produites. Le premier acte, enfin, l'un des actes les plus importants et immédiats du gouvernement Pétain, qui était à Vichy, en zone non occupée, c'était la loi contre les Juifs en octobre 1940, qui interdisait aux Juifs d'exercer une profession qui soit publique, enfin dans le domaine public, dans l'enseignement, dans les administrations. Et la même chose s'est produite en Algérie, puisqu'à l'époque, l'Algérie comportait 3 départements français. C'était l'Algérie française, c'était une colonie, mais c'était comme ça. Voici, disons, brièvement et vraiment sommairement exposé les choses. Un certain nombre de Français sont donc entrés en résistance contre l'occupation allemande à l'extérieur, sous l'égide du général de Gaulle, et en France aussi, les prémices, si vous voulez, se sont organisées dès la fin de 1940. Les choses ont continué. Nous étions dans la zone sud, c'est-à-dire la zone non occupée par l'armée allemande. Au nord et tout le long des côtes, c'était l'armée allemande qui occupait la France. C'était ce qu'on appelait la zone occupée et nous la zone non occupée. L'événement le plus marquant ensuite qui a modifié les choses, c'est l'invasion. Enfin, l'invasion, on peut parler d'invasion, même si l'armée allemande était en partie sur le sol français, de la zone sud, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1942. À ce moment-là, l'armée allemande est venue ici, à Bourg-en-Bresse, partout, jusque dans le midi de la France. La France, en totalité, était occupée par l'armée allemande. C'est d'ailleurs au 11 novembre 1942 que la flotte française qui était à Toulon s'est sabordée. Autrement, autre fait encore pour que vous puissiez apprécier les choses, le gouvernement de Pétain, en janvier 1943, a instauré ce qu'on appelle le STO, le service du travail obligatoire, pour, disons, ce qu'on a appelé aussi historiquement la relève. Qu'est-ce que c'était? C'était une sorte de pacte entre Vichy et l'Allemagne qui consistait à échanger des prisonniers français qui étaient dans les camps allemands contre des ouvriers français qui allaient être des jeunes ouvriers français qui étaient appelés à travailler dans les usines allemandes. Pourquoi? D'abord parce qu'il y avait deux états de fait. L'armée française avait été, disons, véritablement ramassée, c'est le cas de dire, dans un piège, puisque, en gros, il y a eu 1 500 000 soldats français qui ont été emmenés prisonniers en Allemagne. Mais dans les années qui ont suivi, l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique. Et sur le front soviétique, l'armée allemande a eu affaire à, disons, des combats extrêmement violents. Il y a eu beaucoup de difficultés. Stalingrad et la jeunesse allemande se trouvaient donc, non pas au travail, mais enrôlés sur les différents fronts. Et je passe encore les fronts, le front d'Afrique encore, mais le plus important, c'était celui qui était dans la lutte contre l'URSS. Donc, si vous voulez, c'était échange de prisonniers français qui rentraient en France, notamment les malades, contre des jeunes ouvriers français qui allaient travailler dans les usines allemandes. Mais ce n'était pas un échange donnant-donnant. C'était un prisonnier qui rentrait contre trois ou quatre ouvriers qui partaient en Allemagne. Pourquoi je vous cite ce fait? Parce que ce fait-là a été un fait déclencheur extrêmement important des maquis dans toute la France. Des jeunes Français sont partis, mais d'autres ont refusé de partir. Et refusaient de partir, ils devenaient des clandestins. C'est-à-dire qu'il fallait trouver une opportunité pour se cacher ou pour aller quelque part. Et c'est à partir de ce moment-là que se sont développés les maquis dans l'Ain comme dans toute la France. Il y a encore dans mon village l'un de ces, ces candidats au STO qui avait refusé à l'époque de partir et qui est allé dans les maquis du département de l'Ain. C'était donc le début. Et je tenais à vous rappeler modestement, et non pas comme professeur d'histoire ces événements-là, parce que c'est pour vous faire comprendre que les choses se sont modifiées progressivement. Au début, il y avait une relative confiance dans le maréchal Pétain. Pourquoi ? Parce que les forces vives de la nation française, c'était les anciens combattants de 14-18 qui avaient connu Pétain, puisqu'ils étaient des militaires, enfin des mobilisés, si vous voulez, combattants sur le front français. Et ils bénéficiaient, Pétain, d'une certaine aura et d'un certain crédit. Ce crédit-là a disparu au fur et à mesure, et les choses ensuite se sont dégradées au point que quelques personnes sont entrées en résistance, le climat général s'est modifié, et c'est comme ça que, en ce qui me concerne, je suis entré dans la résistance. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, si j'ai été clair, mais j'aimerais que maintenant vous me posiez des questions, parce que j'étais un bahutien à l'époque, en 43. C'est comme ça qu'on dit toujours. Non, à l'époque, on disait les élèves du lycée ils venaient au bahut, c'est-à-dire on était des bahutiens. Ce que j'aimerais, c'est que vous me posiez des questions, parce que je ne veux pas parler constamment.
Vous aviez quoi comme mission ou affaire ou...
Ah. Alors d'abord, si vous voulez, avant de répondre à cette question, je vais vous dire pourquoi j'étais au lycée. Parce que Pétain avait supprimé les écoles normales, ce qu'on appelle aujourd'hui IUFM.
Les écoles pour les instituteurs.
Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on était admis à l'école normale, c'était pour devenir institutrice pour les filles et instituteur pour les hommes. Pétain avait supprimé les écoles normales parce qu'elles étaient sans doute trop,
disons, gauche.
Trop à gauche, oui. Je n'osais pas employer le terme, mais les instituteurs n'étaient pas à droite, ils étaient à gauche, dans leur immense majorité. Et c'est comme ça que, en tant que normalien, comme tous mes camarades, nous sommes venus au lycée avec les lycéens. Alors, avant de répondre à votre question, je vais vous dire comment ça s'est passé pour entrer dans la résistance. Parce que je croyais que ce serait la première question que vous me poseriez. Non, vous pouvez poser autant de questions à autant de résistants, vous aurez toujours des réponses différentes. Parce que ce n'était pas une chose qui se passait dans la rue, disons comme ça, sur la foire ou sur le marché. Non. Il fallait connaître et avoir confiance en celui que l'on abordait. Je suis entré dans la résistance exactement le premier dimanche de septembre 1943. J'avais 17 ans, je venais de rentrer à l'école normale, et ça s'est passé tout simplement dans une vogue, c'est-à-dire une fête foraine comme il en existe encore maintenant, à Montrevel-en-Bresse. Voilà, exactement. Comment les choses sont passées. Comment ? C'est un camarade qui était avec moi à Châtillon-sur-Laronne, à l'EPS, qui m'avait contacté, qui lui était déjà dans la résistance, on se connaissait depuis 4 ans, et qui m'a posé tout simplement la question de savoir si je voulais entrer dans la résistance. Vous voyez, c'est banal. Ça ne s'est pas fait, on n'a pas crié sur la place publique ces choses-là, bien entendu. C'était entre soi. Voilà. Alors la question, c'était savoir ce que
vous faisiez dans les maquis.
Alors, je voudrais bien situer les choses parce que ça s'est passé pendant les vacances, c'est entré dans la résistance, enfin, en résistance et dans la résistance. L'organisme, c'était les Fuges, c'est-à-dire Forces Unies de la Jeunesse. Et je me trouvais dans la situation d'un interne au lycée, c'est-à-dire que je n'étais pas comme vous, je ne sortais pas tous les jours et je ne rentrais pas. disons, j'étais interne, je couchais au lycée, enfin, vous savez ce que c'est qu'un interne, hein, c'est pas la peine que je vous l'explique. C'est-à-dire que je ne pouvais, en tant que résistant, que faire ce qui était possible dans le lycée. C'est-à-dire discuter avec les camarades qu'on connaissait, pour voir un peu comment les choses se présentaient, diffuser des journaux clandestins lorsqu'il y en avait, recueillir de l'argent, puisque j'ai même, c'est dommage, je ne l'ai pas apporté, on faisait des petites souscriptions pour recueillir de l'argent pour les fuges. Mais je n'en ai fait qu'une, et c'était avec des camarades que je connaissais bien, dont j'étais sûr qu'ils ne diraient rien, ou qu'ils ne parleraient pas. À l'extérieur, disons, j'ai quand même fait quelque chose. Le responsable fuge qui était un lycéen aussi et un normalien m'avait contacté pour que j'organise une trentaine de fuges dans le nord de la Bresse, exactement dans le canton de Saint-Rivier-de-Courte. J'ai donc pendant mes congés du dimanche, pendant les vacances, contacter des jeunes pour organiser cette trentaine, ce qui a été fait. Voilà pour... la trentaine, qu'est-ce que c'était? C'était, en réalité, on était organisé sur la base de sixaines, c'est-à-dire de six avec un responsable. Donc une trentaine, c'était cinq sixaines. Voilà. Je résume, disons, pour répondre à votre question, ce que j'ai pu faire dans la résistance, c'est-à-dire dans la clandestinité. Il faut bien vous mettre dans l'idée qu'il y avait des gens qui collaboraient avec l'Allemagne, c'est-à-dire qui dénonçaient par lettre anonyme à la police, à la gendarmerie. Il y avait la milice, qui était une organisation militaire, qui était en définitive au service des Allemands et avec qui il valait mieux ne pas avoir affaire. Donc, il y avait beaucoup de précautions à prendre pour faire ce travail qui peut paraître un travail simple et banal en définitive.
Et vos parents, ils étaient au courant que vous étiez résistant ou...
Non. Mes parents ont ignoré tout le temps que j'étais résistant.
Même après la guerre ?
Comment ? Ah non, pas après la guerre. Non, non, parce que ensuite il y a eu une deuxième phase après. Moi je vous ai parlé de la première phase qui est celle de la résistance, de l'organisation clandestine lorsque j'étais élève au lycée, c'est-à-dire ce qu'on pouvait faire modestement au lycée pour répandre les idées, pour et puis ce que j'ai fait à l'extérieur pour organiser, disons, des groupes de résistants.
Ça servait à quoi de faire une trentaine ?
Ah !
Eh
bien voilà, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça c'était une organisation, si vous voulez, la résistance, c'était non armée. Mais il était évident que la guerre allait avancer et qu'il y aurait un débarquement allié en France. Pour préparer la résistance et aider les alliés qui allaient débarquer, il fallait avoir cette organisation-là. C'était pour cela que c'était pour pouvoir, à ce moment-là, entrer dans la lutte armée lorsque l'ordre nous serait donné. Et l'ordre nous a été donné au débarquement du 6 juin 1944. Vous comprenez, il y a deux phases. Il y a une phase où on était... disons, où on se cachait, pour ceux qui étaient OCO, où on faisait notre travail clandestinement, mais nous n'avions pas d'armes. Moi, je n'ai jamais fait de maniement d'armes pendant la clandestinité. Il y en a qui en ont fait, moi, je n'en ai jamais fait. Mais par contre, après, il y a eu la deuxième phase, qui était celle du maquis. C'est un peu la question que j'attendais. Parce que c'est la deuxième phase, à savoir que lorsque les chefs de la résistance nous ont demandé de sortir de la clandestinité et de partir, c'est à ce moment-là que se sont organisés les maquis. C'est-à-dire que là, j'ai quitté ma famille et je suis entré, disons, au maquis véritablement. Là, les gens qui étaient des résistants que l'on ne connaissait pas sont sortis au grand jour et ont eu des armes pour pouvoir s'organiser et éventuellement combattre. C'était ça la deuxième phase. Et me concernant, j'ai eu encore une petite anecdote pour vous montrer les choses. J'aurais dû aller avec les fuges dans le Bugey, mais je n'ai jamais eu, disons, le signal pour pouvoir, ça peut paraître bizarre, pour pouvoir partir avec tous ceux que je connaissais dans un maquis dans le Bugey. Puisque les fuges étaient dans le Bugey, dans le haut Bugey, dans le bas Bugey, je me suis retrouvé coincé. Vous allez me dire, c'est extraordinaire, mais on ne communiquait pas à ce moment-là. Ben non, c'était très difficile de communiquer. Vous avez tous un portable maintenant. À l'époque, dans ma commune, il y avait une cabine téléphonique avec un téléphone public qui transmettait les appels téléphoniques et éventuellement les télégrammes. Alors, vous imaginez comment on pouvait communiquer. Comme j'étais à près de 30 km de Bourg, pour avoir une communication, il aurait fallu que je prenne ma bicyclette et que je vienne à Bourg pour savoir ce qui se passait. Ça aurait été trop tard. Donc, je suis parti avec l'armée secrète, qui était une autre organisation qui s'était organisée, qui avait pris les armes dans le coin. Donc, à ce moment-là, je suis parti au maquis, c'est-à-dire que les maquis sont organisés par groupe. C'était soit dans des vieilles fermes, je me suis retrouvé dans une vieille ferme inoccupée avec ceux qui, comme moi, étaient partis. Comme nous devenions trop nombreux et pour éviter de se trouver tous coincés, ensuite en plusieurs groupes on s'est séparés. Certains sont restés dans cette vieille ferme et d'autres, comme moi, sont partis dans les bois. On allait, c'était un groupe dans un bois, un groupe dans un autre bois. C'était absolument simple, il n'y avait pas de tente comme aujourd'hui. On avait des bâches de camions ou des bâches que possédaient les agriculteurs et on dormait à même le sol. Les paysans nous ont beaucoup aidés parce qu'ils nous ont aidés à avoir de la nourriture. Sinon, autrement, cela aurait été extrêmement difficile. Et c'est comme ça que, disons, au départ, les choses se sont organisées. Comme moyen, on avait quand même des moyens de locomotion. On avait les camions, pas beaucoup, hein, et une voiture ou deux. La voiture principale à l'époque, c'était la traction avant Citroën, que vous ne connaissez peut-être pas, mais enfin, il est... Voilà, pour le... C'est pas... Ça, c'était simplement pour, disons, vous situer comment les choses se sont développées.
Dans le maquis, vous avez fait quoi comme action ?
Ah, eh bien, dans le maquis, l'une des premières choses que j'ai apprises, c'était le maniement d'armes. Parce que j'étais, vous pensez bien, à 17 ans, ignorant, puisque je n'avais pas 18 ans lorsque je suis parti au maquis, j'ignorais totalement comment on manipulait une mitraillette. Je savais ce que c'était un fusil, parce que dans les tirs forains, je m'étais amusé à tirer aussi, mais ça n'avait rien à voir. Donc, c'est une des premières choses qu'on a faites. Ensuite, au maquis, on avait, disons, on avait la mission, quand on nous le demandait, d'attaquer les convois allemands. La mission de ravitailler aussi ceux qui étaient en difficulté. Parce qu'il faut savoir que dans le département de l'Ain, il y avait beaucoup de camps qui étaient organisés après le 6 juin. Donc, si vous voulez, je pourrais vous dire plus dans le détail ce qu'on a fait, quoi.
Comment vous procuriez les armes ?
Ah, bonne question. Il y avait des armes qui avaient été récupérées auprès de l'armée française. Comment, j'en sais rien, parce que je n'y ai jamais participé. Mais, entre autres, on avait un fusil mitrailleur de l'armée française. Mais la principale fourniture d'armes, c'était les parachutages. Les armes venaient d'Angleterre et étaient parachutées. Il y avait le responsable, c'était pas moi, j'étais trop jeune à ce moment-là pour être responsable, j'étais un simple soldat, si vous voulez. Le responsable recevait un message par la radio. C'était pas la radio, c'était ici Londres, les Français parlent au français. Et il y avait toute une série de messages qui étaient diffusés. Et lorsqu'on entendait ce message qui était répété, on savait que sur le terrain d'atterrissage qui était désigné, viendraient un ou plusieurs avions pour lâcher des containers. Des containers, c'était comme des grands tuyaux, si vous voulez, dans lesquels étaient les armes, les munitions, quelquefois des pansements, enfin de la nourriture, différentes choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier fusil, si vous voulez. J'ai eu une mitraillette au départ, mais j'ai eu un fusil anglais tout neuf. Je n'ai donc assisté qu'à un parachutage pendant que j'étais au maquis. J'en ai gardé un très bon souvenir parce que il faut dire qu'à ce moment-là, comme il n'y avait pas de voiture, personne ne circulait, c'était le calme absolu. On pouvait être sur les routes, personne ne circulait, sauf les Allemands, s'ils étaient au courant, bien entendu, ou la milice. Ça se faisait par nuit claire, et je revois encore les parachutes de couleur jaune, blanche et noire descendre. Tout le groupe était là pour rassembler immédiatement les containers et les emmener dans une cache, bien entendu. Là, ce n'était pas une cache parce qu'on était organisé en camp véritablement. Voilà comment j'ai eu les premières armes.
Les Allemands, ils savaient où ils se trouvaient, les maquis, ou c'était secret ?
Les Allemands savaient que les maquis étaient organisés. Et il y a eu une attaque générale contre les maquis dans l'Ain en juin 1944, juin, début juillet 1944. Et les maquis ne pouvaient pas, là, si vous voulez, je vous parlais tactique militaire. Du point de vue tactique, c'était impossible de se battre, de faire une bataille rangée contre les Allemands. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils étaient beaucoup mieux armés que nous. Ils disposaient de chars, ils disposaient d'aviation, ils disposaient de matériel lourd. Et ils étaient aussi, si vous voulez, j'emploierai un terme moderne, beaucoup plus professionnel, parce qu'ils s'étaient battus pour certains depuis déjà des années et des années. Tandis que nous, nous étions des apprentis, sauf les plus anciens qui avaient fait la guerre de 39-45, ou même certains la guerre de 14. Donc voilà comment les choses sont présentées. Une partie, pour éviter que le contact avec l'armée allemande, on nous avait demandé de nous fractionner à nouveau. Donc, à ce moment-là, par exemple, notre groupe s'est séparé en plusieurs groupes. Il y en a qui ont carrément quitté le combat et d'autres qui sont restés. La minorité qui est restée, c'est celle qui voulait vraiment combattre jusqu'au bout. En ce qui me concerne, moi, j'étais jeune et j'ai dû faire à ce moment-là, je sais pas, 5 ou 6 kilomètres avec des munitions, un fusil mitrailleur, un fusil aussi, enfin du matériel qu'on avait rassemblé pour pouvoir se disséminer par petits groupes. Voilà, c'est une première chose pour répondre à ce que vous me demandiez tout à l'heure. Et puis, par la suite, lorsque ces combats se sont terminés, les camps se sont reformés à nouveau, beaucoup plus nombreux, avec beaucoup plus de résistants qu'avant. Pourquoi cette tactique ? parce que il était impossible d'avoir une bataille rangée comme aux Glières contre les Allemands, et la bataille des Glières elle s'est terminée par disons la victoire des Allemands contre les Français, ce qui était normal, ils étaient mieux organisés. C'était la seule méthode, c'était celle qui se pratique aujourd'hui encore, si vous écoutez la radio et ce qui se passe dans le monde, c'est l'embuscade, c'est-à-dire la guérilla, pour pouvoir constamment combattre contre les Allemands. C'était ça l'attaque des convois, qui était notre principale méthode, si vous voulez, de combat. Est-ce que vous voyez comment les choses se présentaient? Pas de bataille rangée, sauf dans des cas très exceptionnels. C'était surtout des combats très importants, très nombreux, comme ça, contre les Allemands.
Il y avait des traîtres dans le groupe.
Des traîtres?
Des traîtres.
J'ai pas bien compris.
Des traîtres.
Ah, des traîtres, oui. Il y en a eu, oui, c'est vrai. En ce qui me concerne, moi, je n'ai pas eu affaire à cela, mais il y en a eu jusque dans le quartier général de l'organisation de la résistance. Je n'ai jamais participé, je n'ai jamais eu affaire à des traîtres en ce qui nous concerne, nous, mais ça a existé, et heureusement, il y en avait un, notamment, qui est à la solde des Allemands, qui a été reconnu. Qui a été reconnu et qui naturellement a été fusillé immédiatement. Mais des traîtres, il en existait, c'est vrai. Et c'était l'une des peurs de se trouver confronté à... Parce que c'est un sentiment aussi dont on peut parler, c'est-à-dire la peur. La peur d'être suivi, la peur d'être dénoncé, la peur de se trouver coincé par la faute de tous ceux qui étaient des délateurs, quoi, qui envoyaient des lettres anonymes, qui avaient un moyen ou un autre de combattre la résistance.
Vous avez connu des gens qui se sont fait arrêter par les Allemands?
Comment?
Vous connaissiez des gens qui se sont fait arrêter par les Allemands?
Oui, dans mon village, il y en a eu. Qui était d'ailleurs totalement innocent, qui n'était ni résistant ni rien du tout, parce que quand il y a eu tous ces combats qui se sont déroulés après le 6 juin, eh bien l'armée allemande, la milice, ont raflé des gens. Par exemple, dans mon village, c'est un pauvre paysan qui a été raflé, qui a été amené en camp de déportation et qui n'est jamais revenu. J'avais un camarade au lycée Lalande qui était encore plus jeune que moi, qui avait ses deux frères dans la résistance et qui, peut-être par esprit bravache, avait nargué les Allemands pour Pâques 1944 et qui a été pris et emmené en camp de déportation. Il est allé à Buchenwald, à Dora, Darao, il a réussi à s'évader le dernier jour et à rentrer. Il est encore de ce monde, c'était un costaud, il a survécu. Et il a eu beaucoup de chance. Donc on a bien eu des camarades qui ont été raflés, déportés. Moi, parmi les camarades que j'ai eus, je n'en ai aucun qui a été fusillé. Par contre, j'en ai un. J'ai un camarade de ma promotion qui était au lycée Lalande, qui était au maquis aussi, pas dans le même camp que moi, qui a été tué quelques jours avant la libération, à la limite de Cormeaux et de Varennes-Saint-Sauveur, c'est-à-dire la limite de l'Ain et du Jura.
Vous avez fait quoi après la libération?
Alors attendez, je continue encore, parce que, avant la libération. Sinon, on escamoterait les... Non, j'ai participé à des embuscades. La plus importante à laquelle j'ai participé, c'était une embuscade contre un convoi allemand sur la route de Mâcon, à la proximité de Mâcon. Vous connaissez peut-être la croisée de Bagé, il y a un rond-point qui mène à Pont-de-Vel, Bagé. Et un peu plus loin, il y avait un bois à quelques centaines de mètres, et nous avons attaqué un convoi allemand. C'était autour du 25 août 1944. C'était la première fois que j'étais véritablement amené à combattre contre les Allemands. C'est un combat qui a fait, si mes souvenirs sont exacts, 7 morts, je ne parle pas des blessés, et nous avons fait 2 prisonniers.
7 morts allemands ?
Comment ?
7 morts allemands ?
Oui, allemands. Oui, mais c'est ça l'avantage de l'embuscade. C'est que nous nous étions cachés, les Allemands ne s'y attendaient pas. Voilà. C'est ce qui se passe maintenant dans... Vous savez, quand vous avez des histoires d'Afghanistan et autres, eh bien, on ne procède pas autrement. On ne procède pas par bataille rangée, sauf dans les cas exceptionnels. Voilà, c'est donc le premier combat que j'ai eu à mener. Maintenant, je peux dire une chose aussi. Il y a des situations cocasses, parce que là, c'est nous qui tirions sur les Allemands, mais je me suis aussi trouvé dans une situation où les Allemands nous ont tiré dessus, c'est-à-dire nous ont vus les premiers. Et là encore, nous avons eu beaucoup de chance, parce que nous nous trouvions sur un pont, avec un bois derrière nous, donc on a pu se tirer facilement. Mais nous n'avions pas de moyens. Comme ils étaient plus professionnels que nous, ils nous ont repérés beaucoup plus facilement. Ça, c'était la période quand les Allemands rentraient en Allemagne. Et c'était une période où eux faisaient beaucoup plus attention que nous, parce qu'ils savaient qu'ils risquaient d'être attaqués. Et là, on s'est bêtement fait coincer. Mais enfin, on a réussi à s'en sortir. Comme autre chose importante, j'ai plusieurs fois participé à notre groupe a participé au ravitaillement des maquisards qui se trouvaient dans le Haut-Bugey, au Crêt-de-Chalam. Il y avait des équipes qui arraisonnaient les péniches sur la Saône, à Fleurville exactement, au pont de Fleurville. Et ces péniches emmenaient, naturellement, toujours au profit des Allemands, du sucre, des conserves, enfin, je passe beaucoup de choses, de la farine. Et c'était ces produits que nous emmenions par camion jusqu'au Crêt-de-Chalam. Vous savez, ça vous paraît quelque chose de banal, mais à l'époque, il fallait passer au travers des Allemands, des convois allemands qui circulaient sur la... en direction d'Allemagne. Les ponts étaient coupés. Par exemple, pour aller au Crêt-de-Chalam, il fallait passer sur le barrage de Cise. Je dis bien sur le... C'était le seul endroit, le pont de Thoiret il avait sauté. Il ne restait plus qu'un passage pour une bicyclette, c'est tout. Et le camion passait sur le barrage de Cise. Les camions n'avaient rien à voir avec ce que l'on a aujourd'hui. C'était des gazobois, des gazogènes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnaient au charbon de bois ou un bois. Oui, ça vous paraît bizarre alors qu'aujourd'hui on a des matériels extrêmement perfectionnés. Donc il fallait une journée. On partait d'un moulin de Malafrota pour monter jusqu'au Crêt-de-Chalam. Il fallait une journée entière pour faire ce parcours. Parce qu'on roulait à 30 à l'heure, 40, au mieux. Donc c'était véritablement un travail qu'il fallait faire, parce qu'il fallait aussi, pas l'oublier, apporter de quoi nourrir tous les maquisards qui se trouvaient là-haut. Hein.
Mais vous n'étiez pas arrêté sur le barrage quand vous passiez ?
Ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit. On ne passait jamais par Oyonnax, on contournait Oyonnax pour éviter la ville. On contournait les villes. La dernière fois que nous y sommes allés, C'était les derniers, enfin, la dernière semaine du mois d'août 1944. Lorsque nous sommes trouvés à la hauteur de Béni, on voit au loin des fumées en direction de Saint-Étienne-du-Bois. On s'est dit, tiens, c'est bizarre. S'il y a des incendies, c'est que les choses ne sont pas bonnes, parce qu'on pensait couper par Saint-Étienne-du-Bois pour monter très fort, etc., etc., et prendre la route pour nous rendre dans la région de Yonnain. Donc on a fait demi-tour, et on a bien fait, parce que les Allemands avaient incendié des fermes et tué des gens à Saint-Étienne-du-Bois. Alors on aurait bien pu se trouver directement dans le coup. Donc vous voyez, c'était des choses qu'il fallait éviter. Et celui-ci, c'est assez pittoresque, parce que cette fois-ci, il n'y avait plus de résistants au Kretschalam. Vous avez encore un autre épisode pour vous montrer que la communication ne fonctionnait pas toujours bien. Donc nous sommes redescendus et il y avait beaucoup de sucre. C'était des chargements où il y avait particulièrement beaucoup de sucre. Nous sommes arrêtés à Oyonnax cette fois-ci. Il y avait une coopérative qui s'appelait l'Aurore Sociale, si mes souvenirs sont exacts. Et on a donné le sucre aux gens qui n'en avaient jamais bu autant depuis fort longtemps.
Vous avez fait des sabotages ?
Je n'ai personnellement jamais participé à des sabotages, mais il y en a eu beaucoup. Les sabotages se faisaient sur les voies ferrées, notamment, pour faire sauter les rails, enfin faire sauter les rails lorsque le train arrivait. Et à ce moment-là, c'était la communication qui était interrompue pour l'armée allemande. Mais il y en a eu beaucoup de sabotages. Il y a eu des ponts aussi qui ont sauté. Mais personnellement, disons que j'étais au lycée, il ne faut pas oublier ça, j'étais interne, donc je n'ai fait que ce que je pouvais faire comme lycéen quand je partais, quoi. Je n'ai jamais eu l'occasion de participer à des sabotages. J'ai participé à des attaques, à des embuscades, à différentes choses, mais ça, non.
Est-ce que dans les maquis, il y avait une bonne ambiance ?
Comment ?
Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance dans les maquis ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, grosso modo, nos chefs, c'était des gens qui avaient une trentaine d'années, qui avaient combattu, puis d'autres, qui avaient combattu déjà en 40. Il y en a qui avaient, deux notamment, qui avaient été blessés pendant la guerre de 40. Donc ils avaient, eux, plus d'expérience que nous. Mais honnêtement, c'était une bonne ambiance. Il n'y a pas eu de... Ceux qui étaient restés, vraiment, ils en voulaient. Et je dois dire que de ce côté-là, non, il n'y a pas eu de problème particulier. Il fallait bien s'amuser un peu de temps en temps. Mais je vous rassure, hein, il n'y avait pas de bal public, pas de... Parce qu'on trouve maintenant, hein, rien de tout ça. Donc c'était beaucoup plus simple. Ah, le problème des femmes, c'est une question intéressante aussi. Oui, il y avait des femmes. Parmi les combattantes, non, mais les femmes, elles ont joué un rôle non négligeable pour un aspect particulier. C'était celui des agents de... Je ne me souviens plus comment on appelait exactement. C'est elles qui transmettaient les messages. C'était des agents de liaison. Et les femmes étaient beaucoup moins repérables que n'étaient les hommes. C'était elles qui assuraient presque toujours, je ne dis pas toujours, mais presque toujours, la liaison d'un camp avec un autre, des chefs envers un chef, etc., etc. Donc les femmes ont bien participé à la résistance, certaines sous d'autres formes, en aidant le maquis en apportant de la nourriture, enfin... en soignant quelqu'un s'il y avait des problèmes. Vous voulez savoir ce qui s'est passé à la libération ? Comment ? Non, en ce qui me concerne, J'étais le seul à avoir des rudiments, enfin que je connaissais un peu l'allemand parce que j'en avais fait déjà pendant 4 ou 5 ans, et un peu d'anglais. Et lorsque les Américains sont arrivés, on m'avait chargé d'accompagner la première Jeep qui faisait en quelque sorte une inspection générale pour voir comment les choses se présentaient. Je suis donc parti avec des soldats américains en Jeep jusqu'en Saône-et-Loire, sur le parcours de Romney, Montpont et retour jusqu'à Saint-Julien-sur-Essouze où nous étions. C'était intéressant parce que là, tout le monde était, disons, c'était ce qu'on appelait les résistants de septembre. Tout le monde avait résisté, tout le monde était enthousiaste. C'était vraiment la joie partout. Et les Américains n'avaient pas fait ce parcours sans raison. Eux, contrairement à nous, étaient très bien informés. Il y avait un avion de chasse allemand qui avait été abattu à la chapelle Teck. Et je ne connaissais pas du tout le coin, je n'étais jamais allé. Donc les Américains sont arrivés, on est arrivé pile sur cet avion qui avait été abattu. Ils ont enlevé très rapidement les pièces qu'ils devaient connaître, je pense, et qui étaient des pièces maîtresses, et puis ensuite tiré à la mitraillette pour pouvoir, disons, rendre inutilisables toutes les pièces qui existaient. Et on est revenu ensuite. Et puis ensuite, qu'avons-nous fait ? En ce qui me concerne, moi j'ai eu, j'ai fait prisonnier, entre guillemets, un pauvre malheureux d'Allemand qui était en retard et qui n'avait pas pu suivre les convois allemands qui remontaient en direction de l'Allemagne. C'était un pauvre bougre qui remontait comme il pouvait. C'était les paysans du village qui me l'avaient indiqué. Et je suis sûr qu'il était plus satisfait de se trouver prisonnier que de continuer avec l'armée allemande qui avait à combattre. Il faisait partie de ces Allemands qui, à la fin, en avaient assez et qui, en définitive, était content de ne plus avoir à se retrouver au front. On est resté encore avec les armes pendant pratiquement tout le mois de septembre. On n'avait pas de mission particulière, disons. C'était un peu la période post-maquis. Et à la fin du mois de septembre, on nous a rassemblés au camp, à Servigna, et on nous a demandé, on nous a posé la question de confiance suivante. Ceux qui veulent rester se mettent d'un côté, et ceux qui veulent partir se mettent de l'autre. À savoir qu'il y avait des pères de famille qui n'avaient pas du tout envie de continuer, qui sont rentrés chez eux. Moi-même, je quittais le camp pour revenir première année au lycée allemand, et tous ceux qui sont restés ont formé, sont partis au 99e régiment d'infanterie qui a combattu les Italiens et les Allemands dans les Alpes. Voilà comment les choses se sont terminées. Et puis j'ai repris la vie de lycéen, c'est tout. Chose qui m'a fait plaisir, lorsque nous sommes rentrés au lycée, c'est que notre professeur de français de seconde, le premier ou le deuxième jour, nous a rassemblé tous ceux qui étaient dans sa classe en seconde, dans la cour, pour nous exprimer ses félicitations pour notre attitude. Donc ça, c'était intéressant, un aspect intéressant.
Mais ils sont allés où, ceux qui étaient collaborateurs dans votre classe ?
Comment ?
Ceux qui collaboraient et qui étaient dans votre classe ?
Dans ma classe, il n'y a pas eu de collaborateurs. Au lycée, je n'ai eu connaissance que d'un professeur qui était collaborateur, enfin, pour ma connaissance propre, quoi. Ceux qui avaient qui étaient, disons, depuis plusieurs années au lycée avaient beaucoup plus de, disons, de connaissances que moi, mais c'était un professeur qui était collaborateur, c'est peut-être un grand mot, oui, mais enfin, disons qu'il était pro-allemand, quoi, pro-vichiste. Mais je ne pense pas qu'il ait, en ce qui le concerne, nuit véritablement aux lycéens ni à qui que ce soit. Enfin, je pense, mais je n'affirme rien. Mais je n'ai pas connaissance de choses importantes.
Ça sonnait là ?
Mmh. Ouais.
Ah bon ? Ça sonnait.
Je vous en ai montré différentes choses, mais malheureusement, une heure c'est rapide. Une heure c'est rapide, mais je voulais dire des tas d'autres choses intéressantes. J'espère que ça vous a fait le choix.